Histoire de terre. Bienvenue dans Histoire de terre sur Radio Vassivière. Qu'ils se nomment paysans, agricultrices, exploitantes, éleveuses ou bergers, qui sont-ils? Chaque mois, nous vous proposons de passer une heure avec un homme ou une femme qui, d'une façon ou d'une autre, travaille la terre, ici sur la montagne Limousine, mais aussi ailleurs. Nous avons envie de les suivre sur leur terre, avec leurs bêtes, et nous échangerons avec eux sur la vie de paysan et tout ce qu'elle implique. Cet été, Histoire de terre est partie en vadrouille sur la côte atlantique, pas très loin de Saint-Nazaire, et nous avons rencontré Jean-Christophe, paludier dans le Marais guérandais. Jean-Christophe produit donc du gros sel et de la fleur de sel, et exploite plusieurs salines depuis une année. Nous l'avons accompagné pendant ce qu'il appelle le tour à l'eau. Cette partie de son travail consiste à visiter les trois salines qu'il exploite pour surveiller et ajuster les niveaux d'eau, afin de favoriser la production de sel. Vous allez donc participer à cette visite, entrecoupée de déplacements en voiture puisque les salines sont éloignées les unes des autres. Bon voyage sur la presqu'île guérandaise.
Normalement, comme je te disais, le milieu de l'œillet, il est bombé. Du coup, il faut qu'il y ait peut-être 2 mm d'eau au-dessus de au-dessus du milieu de l'œillet. Et là, il y a bien un centimètre. Donc là, il y a trop d'eau. Il n'y aura pas de sel ce soir ni demain.
Alors peut-être on peut commencer par vous présenter.
Moi je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 41 ans. Et je suis installé depuis un an en tant que paludier à Guérande.
Guérande qui se trouve dans...
Guérande se trouve en Loire-Atlantique, politique et historiquement on va dire en Bretagne. Les salines se trouvent entre l'embouchure de la Vilaine et de la Loire. Moi j'habite à côté, j'habite pas très loin, parce que comme tout bon paysan ou agriculteur, il faut pas être loin de son exploitation. J'ai fait la tentative d'habiter loin, mais c'est pas possible. Parce qu'il faut être hyper présent, quoi. Être présent matin et soir à partir d'une certaine époque, à partir du mois d'avril. Parce qu'il faut tous les jours, tous les matins, venir voir comment l'eau circule sur ces salines, et le soir aussi, quoi. Et j'ai une compagne, une fille, une petite fille. Je me suis présenté.
Et donc, paludier. C'est ceux qui récoltent ou qui s'occupent de produire du sel.
Oui, paludier.
Ah oui, parce que sur la montagne Limousine, on ne connaît pas les paludiers.
Paludier, c'est... Donc nous, on dit paludier, mais à Noirmoutier, ils vont dire saunier. Et puis, je crois que c'est encore une autre appellation un peu plus au sud. Paludier, on est des aquiculteurs, donc on cultive de l'eau pour en récolter du sel. Donc du sel gris et artisanal, à la grande différence des sels de mine ou de grands industriels qui font aussi du sel marin, mais à grande échelle. Nous, on fait des petits tonnages. C'est un sel qui est de qualité, donc qui est vendu sur un marché de niche, quoi. Voilà. Donc ce sel est récolté de manière solaire. Il y a plusieurs façons de refaire du sel. Il y a le sel de mine, il y a le sel, je ne sais plus si je crois qu'on dit INI, je ne sais plus le terme, mais on chauffe l'eau avec du bois, quoi. Comme le font beaucoup de pays africains, ils ont déboisé d'ailleurs beaucoup de leur territoire. Puis bah, les Guérandais vont faire des missions humanitaires dans ces territoires en Afrique pour leur apprendre à faire du sel solaire. Du coup, cette association s'appelle Universelle d'ailleurs. Et donc la technique ici, c'est de faire du sel solaire, c'est de faire circuler l'eau le plus longtemps possible dans un circuit de chauffe pour que l'eau monte en salinité et puis arrive dans un bassin de cristallisation, produise du sel. Quoi. Voilà. Donc ce sel est gris, ce sel est plus gris que le sel industriel qui est lavé, hein, avec des produits. Celui-ci, notre sel, on le sort de l'eau et c'est tout. Il passe sur une cribleuse quand même pour enlever quelques impuretés d'argile à la coopérative, mais il n'y a pas d'autres interventions, quoi. Voilà. C'est ça, paludier, c'est travailler avec la nature, et en échange, la nature, elle nous donne du sel. C'est ça, quoi. On ne la maltraite pas.
Peut-être on peut dire à quoi ça ressemble, parce que nous, on n'a pas d'image.
Oui, ben c'est vrai que... Ben une saline, alors déjà, il faut s'imaginer un territoire assez plat, qui se trouve même sous le niveau de la mer. Si des digues ont été construites pendant des années entre la mer et le marais, sans ces digues, qui font 27 km de long, c'est des travaux qui ont duré des centaines d'années. Hein. Ils sont terminés, je crois qu'ils ont commencé au 17e, ils ont fini au 19e. Je dis pas de bêtises, ouais. On va vérifier tout ça. Bah, ces digues-là, sans ces digues, si la marée monte, bah, le marais est inondé. Mais pas que le marais. Tout. Jusqu'à la boule, là-bas. Tout serait inondé. Ce qu'il faut vous dire, c'est que on voit là, le clocher de Batte-sur-Mer et là-bas, le clocher du Croisic. Là, on est en plein milieu du marais, là. En fait, le marais que j'exploite, c'est un des plus vieux marais du coin. Donc, je ne sais pas de candidate, mais peut-être du 12e, on peut pas vous dire. Il a été transformé, quoi. Mais...
Ah, ça veut dire que depuis le Moyen-Âge, ici, c'était
celui-ci, ouais. Normal, bah, peut-être pas en permanence, mais c'est un des plus anciens. Alors, est-ce que c'est le 12e, le 13e, j'en sais rien. Voilà, je peux pas vous dire. Donc là, on a une vue périphérique. Donc on voit donc l'entrée de la mer qui est en face de nous, là, à l'ouest. On voit le clocher du Croisic et à droite la plage de la Turballe, la foire de la Turballe. Ça, c'est l'entrée du trait entre la pointe de Pimbon. Et là, on a une arrivée d'eau. Et s'il n'y avait pas une digue à l'entrée dans cette baie, ici, ça serait inondé. Donc, on est sous le niveau de la mer.
Qu'est-ce que c'est, le trait?
Le trait du Croisic, c'est une sorte de baie intérieure qui a été formée il y a 10 000 ans. Parce qu'avant, le Croisic et Batte-sur-Mer, c'était des îles. Donc c'était vraiment des îles, hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un cordon dunaire qui s'est formé en face. C'est la plage de la Turballe. Et un cordon dunaire à l'est, c'est la plage de la Baule. Et ça, c'était il y a 10 000 ans. Et du coup, ça a enfermé la partie de Batte-sur-Mer et la partie du Croisic, là. Et puis les sédiments commençaient à se déposer ici, entre les deux cordons et les deux îles. Les deux îles se sont rejointes, Batte-sur-Mer, le Croisic, et les sédiments d'argile se sont déposés là, puis là où on est, ben, ça a formé le marais, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de l'argile ici. Donc on est sur un site qui est relativement jeune, finalement. 10 000 ans, c'est rien. Donc ce marais, il est morcelé en parcelles. Et alors les images du dessus, c'est impressionnant. Et c'est un peu anarchique. Il n'y a pas trop de... Ça paraît anarchique, vu d'en haut. Mais en fait, il y a quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Il se rend vite compte que ce bassin-là appartient à ce bassin-là, et ce bassin-là, à ce bassin-là. Quoi. Hein, puis il y a comme ça, il y a différents bassins. Il y a des vasières, il y a des cobiers. Donc il y a des vasières, c'est nos réserves d'eau. Le cobier, c'est un bassin intermédiaire. Ici, il n'y en a pas sur cette saline. On n'a pas besoin. Et après, il y a les salines. Donc, les salines, c'est variable. C'est pris entre des talus. C'est comme des. On peut. Ouais, j'ai envie de dire, c'est comme des bassins un peu de. pour faire des palourdes ou des coques pour quelqu'un qui puisse imaginer ça comme les... Ouais, c'est à peu près ça. Sauf que ces bassins-là, ils sont entrecoupés, ils sont de ponts d'argile qui forment encore des petits bassins à l'intérieur de ce grand bassin. Et après, encore d'autres qui sont ensuite les bassins de cristallisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces bassins, hein, ça forme un escalier, en fait. Le bassin de cristallisation, il est tout en bas. En bas de la saline, pour que l'eau puisse couler dedans. Mais on joue sur des niveaux qui sont de 1 à 2 doigts. Mmh. Donc, visuellement, on ne le voit pas. Là, peut-être que vous pouvez constater quand même, on imagine que les œillets sont plus bas que le reste. Mais il faut y regarder à deux fois. Quoi.
Ouais.
Sinon, quelqu'un qui se passe devant, ah ben non, on ne voit pas. Mmh. Et, et nous, on joue sur les niveaux.
Voilà. Donc, ouais, ça, tout le travail du palidier, ça va être de gérer les niveaux pour pouvoir...
Voilà, là, par exemple, c'est ce qu'on a fait là ce matin. Mais bon, ce matin, c'est cool, hein, le boulot. Et donc, pour revenir sur le territoire, donc on est donc pris entre cette côte-là qui était des îles il y a 10 000 ans et le coteau guérandais, qui est la fin, si je ne dis pas de bêtises, hein, il faudrait vérifier, la fin du sillon de Bretagne. Je ne suis pas sûr. C'est possible. Hein. Donc là, nous, au niveau des pluies, ça c'est un bassin versant. L'eau, elle va s'écouler du coteau, ici, vers le marais. Mais c'est un bassin qui est pas très grand, quoi. Alors, il y a d'autres marais salants de l'autre côté, c'est les marais salants de Mesquer, le bassin du Metz. Par contre, ce bassin versant-là est vachement plus grand. Il commence en haut de ce sillon-là, et il coule jusqu'au Metz. Du coup, eux, on dit qu'ils sont légèrement désavantagés quand il y a des pluies. Parce qu'ils se prennent, une grande, grande surface d'eau à descendre dans le Metz, quoi, qui est l'eau, qui est la petite rivière là, qui s'écoule. Donc nous, ici à Guérande, on a un peu moins d'eau quand il pleut. Un peu moins d'eau. Donc on dit que c'est un peu plus avantagé. On produit un peu plus de sel que là-haut. Quoi. Mais bon, l'année dernière, ils en ont fait plus que nous. Donc... Après, on n'est pas dans une compète de productivité. Hein. C'est... Que moi, par exemple, quand je me suis installé, on m'a quand même conseillé de m'installer à Guérande et pas au Metz. Parce que, nouvelle installée, c'est plus compliqué, c'est pas facile. Faut me rentrer un peu de sel, plus au début. Quoi. Donc voilà, voilà un peu pour situer le paysage, la faune, c'est une faune de marais. On vit avec les oiseaux, les belettes, les sangliers d'ailleurs aussi. Il y a des sangliers qui traversent des œillets des fois. Il y a des.
Ils arrivent à se cacher là dans.
Ouais, pas chez moi. Pas chez moi, c'est pas chez moi. C'est pas sur mon terrain, mais en bord de coteau. En bord de coteau, ah bah oui. Et j'ai d'autres salines. On ira voir tout à l'heure à la Mouzac là, où là aussi il y a des sangliers. Parce que je suis au bord de champ quoi. Donc, ah ouais. Si, ils sont bien là.
Il n'y a pas un seul arbre dans le marais.
Non, c'est vrai, et voilà. Il y a des. Rase, c'est rare, ouais. Au niveau de la flore, je peux pas vous dire exactement ce que c'est.
C'est pas grave.
Mais. ouais. Nous, on dit couper, quand on coupe la végétation, on coupe les brancs. Voilà. On coupe les brancs. Alors, je pense qu'il n'y a pas mal de plantes qui rentrent sous cette appellation-là, quoi. Couper les brancs. Pour faire du sel, il faut quatre éléments. Il faut du soleil, du vent, de l'eau et de l'argile. L'argile qui s'est donc sédimentée il y a des milliers d'années. Là. C'est une argile étanche et qui doit toujours rester humide. Parce que dès qu'elle sèche, elle fissure. Donc l'objectif, c'est que le terrain tombe jamais à sec. Il peut tomber à sec un ou deux jours, hein. C'est pas grave. Mais par exemple, cet été, là, enfin avant la production, on doit nettoyer les œillets à une certaine salinité à l'arrivée. Donc c'est un travail qui est assez speed. Et il y avait tellement de vent d'est et il faisait tellement chaud quoi, qu'avec un collègue, on a failli faire sécher les galoches. La galoche, c'est le milieu de l'œillet là, qui est un peu au-dessus. Il fallait en permanence qu'on remette de l'eau dessus avec nos grands râteaux. Là. Pour pas que ça sèche, parce qu'on a fait une erreur, on a fait tomber l'eau trop vite. Ouais. Donc l'argile, oui. L'argile, c'est ce qui permet de délimiter les pièces d'eau. Donc cette argile, on la jette pas, elle reste toujours dans la saline finalement. Parce qu'on la reprend tous les ans pour la remettre sur les ponts. On en jette la vase qui s'est formée, les particules. Bon, il y a peut-être un peu d'argile dedans, mais non, l'argile, elle reste là, quoi. C'est précieux. Il y a différents types d'argile. Il y a de l'argile bleue, de l'argile verte, de l'argile noire, de l'argile blanche, de l'argile grise. Et sur une saline, il peut y avoir plusieurs types d'argile. Il peut y avoir de l'argile dure, de l'argile molle, de l'argile friable. Voilà. Ça joue sur la couleur du sel, apparemment. Alors moi, je n'en ai pas encore trop vu là.
La couleur.
La couleur. Non, on dit qu'il faut avoir une argile dure pour faire du sel, du beau sel. Quoi. Globalement, je pense que ça, c'est vrai. Mm. On va avancer, non?
Ouais, on va avancer.
Ouais.
On reprend la voiture, là?
Coopérative, c'est la mutualisation des moyens et d'un outil. C'est pas une entreprise gérée par un patron qui va donner des directives quoi, à ses salariés. Il y a un directeur général qui gère, on va dire, de manière financière l'entreprise, mais il a été élu par... par l'administration, par le bureau de la coopérative. Le bureau a été élu par les adhérents de la coopérative, dont je fais partie. Donc moi je paye des parts sociales à la coopérative par an. Pas par an, mais si c'est par an. Non, c'est au début. Et puis je participe à la vie de la coopérative. En votant, en allant aux assemblées générales et en prenant partie des orientations que la coopérative veut faire. Quoi. Les orientations financières, les orientations politiques aussi. Et cette coopérative, elle stocke en fait le sel qu'on produit et le commercialise. C'est-à-dire que moi je suis uniquement producteur. Je ne commercialise pas le sel. C'est pas mon... Et puis d'ailleurs, c'est très bien parce que je n'avais pas du tout envie. Hein. J'avais envie de me focaliser sur la production. Donc cette coopérative, en fait, elle a été créée dans les années 60. Le début, c'est les années 70. Le marais, là, il commençait à mourir. Il n'y avait plus de sel. Les gens avaient arrêté de faire du sel, les anciens. Très peu, quoi. Et puis, des gens un peu engagés, militants sont venus, ont commencé à faire du sel, ont vu que ça fonctionnait, ont créé une coopérative et puis après ça a évolué. C'était un groupement, puis ça s'est transformé en coopérative à la fin des années 80. Ça s'est développé maintenant. Il y a 70 salariés et puis il y a 200 paludiers qui sont adhérents à la coopérative.
Il y a une seule coopérative pour tout le marais.
Il y a une seule coopérative, après il y a des négociants. Alors les négociants, eux, récupèrent le sel des indépendants, des paludiers indépendants. Donc il y a les paludiers à la coopérative, ils vendent leur sel à la coopérative. Ne peuvent pas vendre leur sel personnel. Ils peuvent vendre 10% du stock qu'ils ont en cours. Mais ce n'est pas leur sel. J'ai 100 stocks à la 100 tonnes à la coop. J'ai le droit de vendre 10 tonnes. Je vais acheter 10 tonnes à la coop à un prix... un prix dérisoire quoi, et que je peux revendre après au prix du marché, mais c'est pas mon sel, c'est du sel de tout le monde en sachet par la coop marqué sel saline de Guérande. Le Guérandais, c'est la marque de la coopérative. Voilà. Les négociants, eux, ils vont récupérer le sel de tous les indépendants. Il y a à peu près 100 indépendants et il faut, mais c'est normal, heureusement, enfin il faut de tout quoi.
Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi s'est créée la COP?
Ben, c'est créé parce que je pense que comme je vous dis, c'est des gens qui étaient militants, qui étaient politisés à l'époque, dans les années 70, et qui ont voulu mutualiser les moyens. C'est ça, je pense, surtout. Et ils se sont rendus compte que, en fait, les salins du Midi, à l'époque déjà, dans les années 70, commençaient à... En fait, appliquaient des règles qui ne leur convenaient pas. Parce que tout le monde livrait avant aux grands négociants. Et puis, pour contrer cette manière-là, la COP a été créée aussi. Et il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu des... Il y a eu tout un mouvement activiste contre une... comment dire... un projet de construction à travers le marais, dénaturer le marais, construire une sorte d'une grande route et une marina dans le trait. Et ben, tout ça a fait que les gens se sont regroupés aussi. Donc il y a un peu de tout, quoi, c'est un mélange. Quoi. Mais avant tout, c'était économique, évidemment. Voilà. C'est pour vivre du marais. Pour vivre du marais. On y va ?
Donc là, deuxième parcelle.
Ouais, donc j'ai pas toute la saline là. Pareil, hein, je suis on est deux. Donc là, voilà, moi je suis coopérateur, j'ai 13 œillets, et puis au fond, 7 œillets, c'est un indépendant. Hein, donc c'est la preuve vivante qu'on peut bien travailler ensemble sur une saline. Donc, et sur les 13, j'en ai 9 et 4. Donc j'ai un propriétaire dont je paye un fermage sur les 9 et un propriétaire sur les 4. C'est encore séparé en deux. Voilà. Donc là, je vois que mon niveau d'eau, il est pas trop mal. J'ai envie de toucher à rien. J'ai des pièces qui sont trop hautes, là les pièces qui découvrent. Il n'y a pas trop de vent, en plus. Donc ça permet de voir vraiment... Là, c'est top pour voir les niveaux. Quoi. Parce que généralement, quand il y a beaucoup de vent d'ouest, ça pousse toute l'eau par là-bas. Et du coup, j'ai toujours des pièces qui découvrent à l'ouest, du coup. Et j'arrive pas trop à gérer, mais là, je touche à rien. De toute façon, ici, j'ai du mal à faire tomber l'eau dans la bondre derrière. Donc, on va laisser comme ça. Je fais partie d'une équipe.
Alors, c'est quoi une équipe ?
Une équipe de chaussage, c'est de l'entraide paysanne comme avant. Quand il y a des travaux importants sur une saline, ou chez les uns et chez les autres, eh ben, il y a toute l'équipe qui se mobilise. Quoi. On va aller sur la saline, une saline que j'ai remise en état cette année. Enfin, pas moi, l'équipe, en fait. J'ai peut-être bossé 20% dedans et 80% l'équipe, quoi. Et ben encore, je suis gentil, peut-être 10%, je ne sais pas. Donc,
ça, c'est organisé par la coopérative ou c'est encore autre chose ? Une autre organisation ?
Ouais, c'est à part. Il y a, j'ai envie de dire, des équipes. Il y a 9 équipes, apparemment, qui bossent sur le marais. Ça, ils sont à peu près en moyenne 20 personnes par équipe. Il y a des équipes qui sont plus importantes, d'autres un peu moins. Et il y a des équipes où c'est mélangé, indépendant, coopérateur. Ouais,
c'est par affinité ou par...
Quand j'ai fait ma formation, j'avais un maître de stage et je suis rentré dans l'équipe de mon maître de stage. Voilà. Bon, il n'y a pas d'examen d'entrée. Hein. Faut pas faire de bêtises pendant la formation, quoi. Faut montrer qu'on faut travailler un peu quand même. Hein. C'est du travail, hein.
Et donc pour récolter, on travaille donc aussi à la main avec.
On récolte tout à la main.
Ouais. Avec un outil.
Ouais.
Qui s'appelle.
Alors la fleur, c'est la lousse.
La fleur se récolte à la lousse. Donc en surface.
À la lousse de la fleur.
Ouais.
Et le gros sel avec le LAS.
D'accord.
Qui se récolte au fond.
D'accord.
Ouais.
Donc la lousse, c'est une espèce de ratopelle.
Ouais, la lousse, c'est une petite plateforme en plastique alimentaire avec des trous dedans.
Mm-hmm.
On la passe sous la couche de la fleur qui est récoltée en surface. Et il ne faut surtout pas toucher le fond de l'œillet, puisque cette fleur, elle est très blanche en fait. Elle est beaucoup plus blanche que le gros sel qui est au fond. Et Et le gros sel, donc, il est poussé avec le lât, ce qui est une planche en bois, en fait, sur un manche de 5 mètres. Et on ne pousse pas le gros sel, on pousse l'eau qui pousse le gros sel. Mmh. On fait créer une vague avec cette planche là au bord. On accompagne la vague sur 2 mètres maximum jusqu'au là où il y a les petits pas d'oiseaux, là, pas plus loin. Et puis ça, cette vague, elle décolle le grain du fond. Mmh. Et elle va rassembler le grain vers le milieu. Et donc je rassemble tout le grain au milieu.
Au milieu de
l'œillet. En créant une vague à chaque. Donc je crée une vague, hop, je avance d'un mètre, je crée une vague, je fais le tour. Puis après j'ai tout au milieu. Après je me mets sur la petite plateforme là.
Ouais.
Et puis je tire, je pousse pas, mais je le tire vers le nez de la plateforme. Mmh. On forme un cochon, on dit ça.
Un cochon.
Et ce
coup. Tu remontes le tas de sel sur la petite plateforme, quoi.
Après. Non, d'accord. D'abord je forme le cochon. Le cochon, il est donc autour de cette petite plateforme. On appelle ça une ladure, la plateforme. Et donc quand le cochon est autour de la ladure, il y a plusieurs écoles. Certains le laissent là. Ils font ça partout, surtout les œillets. Puis après, ils le tirent sur la plateforme. D'autres tirent tout de suite. Et moi, je le tire, je forme le cochon, je pousse l'autre œillet derrière. Et je tire le cochon une fois que je repasse par-dessus. Bon, on va faire un dessin, un peu compliqué. Mais... Donc voilà. En fait, plus il reste dans l'eau, le sel, plus il s'égoutte et il devient plus blanc, quoi. Voilà. Donc voilà. Le but, c'est de pousser le grain, en fait. C'est que l'eau pousse le grain à chaque fois, et à chaque fois qu'on forme une vague, le sel se lave. Comme ça qu'on lave le sel. Donc moi j'ai que 1 an d'expérience et je fais pas très bien. Je fais encore du sel qui est beaucoup plus gris que mes collègues. Beaucoup plus. Donc j'ai aucune prétention. On dit qu'il faut quelques années avant de pouvoir tirer proprement du gros sel. Et j'ai mon voisin là, Joël, lui, il fait un sel mais d'une blancheur immaculée sur la même saline. Le mien est vachement plus gris.
Ah oui, même son gros sel.
Ouais. Ah bah oui. Donc faut pas avoir de honte parce que c'est normal. C'est... Et puis entre les paludiers, ils me disent les voisins, t'inquiète pas, ça va venir. Ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend pas comme ça, en fait. Ça s'apprend sur le long terme.
Ouais.
Voilà, donc le gros sel, en pareillé, on récolte en moyenne 1,4 tonnes dans une saison.
1,4 tonnes pareillé, c'est-à-dire dans un carré comme ça, il y a 1,4 tonnes de sel.
Par saison.
C'est de quand à quand ?
La saison, c'est de mai. Juin à septembre. Des fois, ça peut être mai à octobre, mais bon, c'est très rare. On va dire fin juin à début septembre, mi-septembre. Voilà.
Ça, c'est la période de récolte.
C'est la période de récolte, mais on récolte que en moyenne 30 jours sur cette période.
On est obligé d'embaucher des salariés parce que le temps est compté quand on récolte. Il faut que ça soit fait au même moment, quoi. Vous êtes vraiment tributaire de la météo.
En fait, on peut pas tout faire. Là, moi, rien que le gros sel, et je suis pas rapide. Moi, je ramasse 6 œillets à l'heure à peu près quand je ramasse le gros sel. Je ramasse le gros sel dans 6 œillets en une heure. Il faudrait atteindre 8-9 œillets par heure pour avoir un train de vie correct. Je commence la journée à 5h, je finis à midi, et puis après je fais une pause et je reprends de 16h, de 17h à 21h peut-être. Puis après le soir je fais autre chose. Hein. Je suis pas sur les salines, mais je peux faire des papiers, je peux faire les bulletins de salaire, je peux trier de la fleur. Et le travail, l'été, c'est raide, quoi, le boulot. Et ben voilà. Et si en plus je devais porter et faire la fleur, ben là, je travaille 24 heures. Hein. Donc c'est pas possible, donc il faut des salariés. Et ils sont payés à la tâche. Enfin, c'est un peu. On peut penser que c'est moyenâgeux, mais finalement, c'est s'en sortent, sont plutôt bien payés, quoi.
Payé à la tâche, c'est-à-dire à ce qu'ils ramassent au kilo.
Au kilo, ouais. Au kilo. Moi, on applique j'applique les tarifs syndicaux. Enfin, chaque palier applique son tarif qu'il veut. Ça fait du 12-13 euros de l'heure net en moyenne. Ça dépend de la saison. C'est une saison où il n'y a pas de sel, ben, c'est zéro. Une saison où il y a beaucoup de sel, ça peut être, c'est très valable.
Donc eux aussi, les saisonniers, une fois qu'ils sont embauchés, ils ne vont pas savoir leur jour de travail.
Non. C'est moi qui leur dis, aujourd'hui, tu as du portage sur cette saline, et il y a de la fleur ou pas.
Donc c'est des gens qui habitent dans le coin.
Ouais, voilà. Ouais. Vaut mieux. Ah, c'est impossible. Non, c'est pas possible d'habiter. Ou alors faut venir ici, passer des vacances quelques mois, mais faut être disponible, quoi. C'est pour ça, c'est un boulot qui est souvent fait par des jeunes étudiants qui sont dans le coin, quoi. Bah, il y a aussi pas mal d'anciens, faut pas. Moi, j'ai mon voisin. Collègue paludier voisin, il a ses deux salariés, ce sont deux personnes qui ont plus de 45 ans, hein. 50 ans même, je crois, je sais plus. Il y a de tout. Hein. Mais je me garde quand même de une saline où je cueille et je porte. Parce que j'avais le temps finalement. Au lieu d'en faire 53, j'en faisais 33, donc voilà.
Donc ça, c'est le travail de mai, juin à septembre, octobre, la récolte.
Ouais.
Et le reste de l'année, c'est vacances.
Ouais. Bah, c'est vacances, non. Hein. Les vacances, c'est en octobre. Novembre. Peut-être novembre, ça dépend de la saison quand elle se termine. Et puis après, bah, on commence les travaux d'hiver. Par exemple, cet hiver, comme j'ai fait une remise en état, bah, j'ai pas eu de vacances. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas de vacances. Ou alors 2-3 jours quand il pleut. Voilà, c'est ça les vacances. Donc j'étais toujours sur la saline. Mais le travail recommence. Réellement en janvier-février. En janvier, on commence à curer les réseaux hydrauliques qui donnent de l'eau aux vasières, donc les canaux en fait. Et après, on nettoie tous les talus de nos vasières. Donc nettoyer, c'est débroussailler. Ramasser le foin, parce que si tu le laisses au bord. Sur les talus, ben ça, avec le vent, ça part dans la saline. Donc ça, voilà. J'ai 3 hectares de terrain, ça fait 3 hectares. C'est pas mal de talus à débroussailler. Et puis après, ben, à partir de février, ben, les salines sont noyées l'hiver. Hein. Il y a de l'eau dedans pour éviter qu'elles s'abîment. Contre le vent, surtout, et le gel. Et en février, on fait tomber l'eau des salines et on attend que les ponts sèchent et puis après, on recommence, on refait tout. On renettoie tous les fonds.
Tous les fonds de chaque œillet.
De chaque pièce.
De chaque pièce, ah oui, ouais. Pas seulement des œillets.
Les œillets, c'est seulement au mois de mai qu'on les nettoie. Juste avant le sel, quoi.
Les œillets, c'est là où on récolte et les autres pièces, c'est les pièces de chauffe.
Voilà.
Et j'ai encore oublié le nom.
Alors, les adernes, c'est les pièces de chauffe, c'est les phares. Les adernes, c'est la réserve des œillets. Et puis les œillets, c'est le bassin de cristallisation. C'est là ce qu'on voit là.
Les petites bestioles. Viens voir. C'est quoi ?
Ouais.
Là.
Mmh.
C'est des artémias.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, sans les artémiens, il n'y aurait pas de sel. Et ça,
on appelle ça du schiste. Du schiste, je pense que je ne me souviens plus trop. C'est du, déjà du sel, mais c'est pas du sel comestible.
Et pourquoi, sans les artémiens, il n'y aurait pas de sel?
Parce que les artémiens, ils mangent une micro-algue, qui est rouge, là, s'appelle Aduna aliena salina. Et ensuite, les artémiens, ils vont dans les œillets et l'eau hyper salée, ils crèvent. Et ensuite, ils sont mangés par une petite bactérie, la Fabrea salina. Et la bactérie, elle pompe l'eau qui est salée. Et quand elle recrache l'eau, elle la recrache tellement concentrée que le grain de sel se forme autour de la bactérie. Donc sans tout ce microsystème, bah, il n'y aurait pas de sel. Parce que l'eau ici, elle a... normalement, l'eau se le sel se cristallise à 330 grammes par litre. Et on n'atteint pas cette salinité, nous. On atteint 280 seulement. Donc c'est la petite bactérie qui concentre son sel en elle. Et quand elle la recrache autour d'elle, le sel est à 330 grammes par litre. Et le grain de sel se forme autour de cette bactérie. Donc il a besoin d'un petit support, le grain de sel, pour se former. C'est soit une petite particule d'argile, soit avec l'aide de cette petite bactérie, quoi.
Ouais. Vous en implantez par moment de cette bactérie ou...
Non, elle est là. On est tous, nous, elle est là depuis des millions de milliards d'années. Et elle est dans tous les marais salants, c'est le même schéma. Donc c'est un microcosme auquel si il est cassé, eh ben il y a plus de sel. Voilà. Donc ça c'est des œillets en fait qui ne sont pas productifs, les 4 qu'on voit là, 1 2 3 4. J'augmente mon terrain de chauffe, j'en ai que 6 qui fonctionnent ici. Alors que c'est une saline de 10 œillets. Moi, j'en fais fonctionner que 6. Mais c'est pas moi, c'est mon prédécesseur, il fait comme ça, je fais comme lui. Pour l'instant, je fais comme tout le monde. Je suis pas un original. Ça, c'est par exemple la terre dont je vous disais qu'on la serre. Puis après, on la jette. Mmh. Là, j'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Donc, ça ressemble à ça, quoi. Mais des fois, les cordons, ils sont larges jusqu'à le bas, quoi.
Mmh.
Hein? Donc, ça, c'est le résidu, c'est le reliquat de ce qu'il y avait de l'année dernière, seulement dans cette partie-là, quoi.
Ouais.
Là où on voit mes traces de râteau.
Ouais, ouais, on voit ça.
Là, j'ai marché carrément dans la pièce pour atteindre le bout là-bas, quoi.
Ouais.
Donc, pour faire ça, j'ai mis 2 jours. Donc c'est beaucoup ça le boulot à partir de fin mai. Une fois qu'on a tout nettoyé, tout est prêt, on attend que ça produit, ben là on est matin et soir, on gère les niveaux. Parce que là c'est important quoi, avant la production. Parce que l'eau est pas très salée encore. Donc pour que l'eau monte en salinité, il faut vraiment qu'on ait vraiment les bons niveaux dans chaque partie. Quoi. Si j'ai trop d'eau dans les premières eaux, ben ça va moins monter en salinité. Si j'ai pas assez d'eau dans les dernières eaux, pas dans les adernes, etc. Quoi. Donc celle-là, là maintenant, l'eau, elle est arrivée, elle est bien salée. C'est pas très grave si on se gourre. Quoi. Faut pas se gourer complètement. Quoi. Mais bon, ben là, si j'ai pas assez d'eau là, j'augmente un peu. Puis voilà. Mais au début, il faut vraiment être matin et soir arrivé. Là, c'est une fois par jour, quoi.
Il y a beaucoup de paludiers qui ont une double activité.
Beaucoup, non, mais il y en a. Il y en a, oui. Avant, oui. Avant, c'était tous. Avant le 19e, là, je ne sais plus, il y avait bien 700 paludiers ici. Et 20 000 œillets d'exploiter, là, cette année. Maintenant, on est 300 et 13 000 œillets d'exploiter. Et il y avait des doubles actifs, quoi. Ils avaient des bêtes, ils avaient peut-être même d'autres cultures à côté quoi. Mais des doubles actifs actuellement il y en a peut-être quelques-uns mais bon. Le but c'est quand même d'essayer de vivre de sa culture.
Et pourquoi il y a le fait qu'il y en ait beaucoup moins des paludiers aujourd'hui et des exploités, c'est lié au fait qu'il y a une exploitation industrielle du sel ailleurs?
Non. Si, non, c'est pas ça. C'est que avant le sel, c'était le seul moyen de conserver les aliments. Je sais plus à quelle époque, à un moment après, il y a eu la réfrigération. Et à partir de là, ben, plus besoin de sel, beaucoup moins, quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'industrialisation, en fait, qui a fait que les paludiers... Parce qu'avant, le plus gros site de production, c'était même pas ici. C'était Bourgneuf, au sud. Bourgneuf-en-Retz. C'était que des salines. Et maintenant, c'est que du marais, quoi. Il n'y a plus que deux paludiers maintenant à Bourgneuf. Avant, il y en avait bien plus. Donc là, cette saline-là, elle n'a pas fonctionné pendant 70 ans. Et dans les années 60, donc il y a dans les années 30 ou 40, 30, il y a eu un raz-de-marée apparemment qui a bréché le talus là. Et la mer, elle rentrait, elle sortait pendant 70 ans, deux fois par jour. C'est devenu une boule. Il y avait de la terre. C'est une boule, c'est un amoncellement de sédiments. Et ça, c'est, en fait, il y avait de la terre partout, quoi, sur ce sein de hauteur.
Ah ouais.
Et il y a deux ans, Cap Atlantique, la région, enfin, sur des financements départementaux et régionaux, peut-être bien européens aussi, il a été décidé de remettre en état tout le quartier ici. Donc ils ont déclaqué, ils ont dépensé 300 000 euros pour remettre en état tout le quartier. Et cette saline a bénéficié de ça. Du coup, ils ont enlevé toute la terre. Et pendant deux ans, elle a été maintenue en eau. Mais c'est pas suffisant, quoi. C'est pour ça qu'elle démarre pas. Elle démarre tout doucement. Là, j'ai fait des premières prises, mais c'est des prises très 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 sales. C'est normal. C'est normal parce que les premières prises sont sales quand on remet en état. Les 4-5 premières prises sont sales et après on les jette. Puis normalement, après, ça fait des bonnes prises, quoi. Mais je suis pas sûr que cette année elle fonctionne, quoi. Voilà. Ce qui fait 20 œillets en moins sur 53, et c'est beaucoup. C'est beaucoup, quoi. Donc cette année, ça se trouve, cet hiver, je vais devoir bosser pour trouver un petit boulot pour pallier. Voilà. Donc un tour à l'eau, ça dure 1h30. Enfin, un bon tour à l'eau.
Hein. Ouais.
Ça, moi, c'est ce qu'on a fait là, c'est le tour à l'eau.
Le tour à l'eau.
Donc on fait ça tous les jours. Enfin, quand on prend le sel, on le fait en le prenant, quoi. On arrive le matin, on regarde, tac tac. Mais quand il n'y a pas de sel, on fait quand même le tour à l'eau. Parce que bah, un trou a pu se boucher. Ce qui m'arrive souvent d'ailleurs sur la saline au Bodo. Souvent j'ai un trou qui se bouche sur les adernes. Du coup j'arrive, je comprends pas, j'ai plus d'eau dans mes adernes. Et pourtant j'avais bien ouvert la pinoche en bois là. Et ben en fait lui s'était bouché une algue. Donc il faut déboucher. Il faut y aller tout le temps. Ça c'est. On peut pas se dire ah ben il a plu, je pars deux jours en vacances, trois jours. Peut-être un jour quoi. Mais deux jours un trou bouché, ben les adernes tombent assez. Ça va vite. Hein.
Ouais, ça va vite.
Ouais, ça passe. En deux jours, ça s'évapore. Hein. Quand l'eau tourne pas en continu. Mm. Et c'est 80% du boulot, quoi. Régler l'eau. Mm. Régler l'eau. Enfin, 80% du boulot à partir d'une certaine époque. Ouais. À partir du mois d'avril, mai. Ouais.
Que pour synthétiser cette histoire d'eau,
ouais.
Donc il y a l'eau de la mer qui vient dans le trait.
Ouais. Oui, c'est vrai, ouais.
Le trait qui... Après, il y a des petits canaux,
ouais.
Qu'on appelle des étiers, c'est ça?
Alors, il y a les étiers, après il y a les bondres, les bondreaux.
Les bondreaux.
Ça va du plus grand au plus petit, ouais. Puis après, bah, ça rentre dans la vasière.
Ouais.
De la vasière dans la saline.
Ouais. Et dans la saline, elle est organisée d'une certaine façon pour que l'eau circule...
Circule le plus longtemps possible.
Le plus longtemps possible.
Vers les œillets, qui sont souvent d'ailleurs au milieu de l'exploitation. Mm. C'est rare de trouver des œillets collés dans un coin, quoi. On n'aura jamais des œillets dans le coin là-bas, par exemple. Toujours au milieu. L'eau, elle va circuler autour, enfin. Elle fait souvent comme ça. Un tour et un deuxième tour, et hop, elle arrive dans les œillets.
Ouais, de manière circulaire, ouais. Vers l'intérieur. Ouais. Quoi. Donc, quand on voit une espèce d'étang où il n'y a pas d'œillets, c'est pas que c'est une saline abandonnée, c'est que c'est une vasière.
Ouais, ben, c'est ça. Par contre, celle-ci, c'est une saline en friche. Là. Pas de chance. Par contre, là, oui, là-bas, c'est ma vasière. Ouais. Ouais. Ça, c'est une saline en friche qui appartient au salin du Midi. Donc, aucun coopérateur ne pourra jamais s'installer dessus. C'est qu'un indépendant. Parce que les salins du Midi ne veulent pas qu'un coopérateur vienne s'installer sur leur saline. Et donc, ils vont installer un de leurs paludiers qui va leur fournir du sel à eux.
Ah oui, ils vont quand même installer quelqu'un.
J'espère. c'est ça. J'espère, parce que il y a celle-là, il y a celle d'à côté, il y a pas mal de haies encore qui pourraient être exploitées. La COP, elle en a comptabilisé actuellement 2000, mais 2000, et là-dedans, je sais pas s'ils ont comptabilisé les friches des salins, quoi. Ouais, c'est un du midi. Mais bon, faut faire, c'est comme ça.
Par rapport à d'autres agriculteurs ou paysans ou quoi, il y a le truc du rapport aux subventions et tout ça, ça c'est pas du tout un truc qui concerne les paludiers.
Si, bon, on a des subventions. Moi sans subvention je m'installerai pas. Hein. Impossible. Mais on n'a pas les subventions qu'ont des agriculteurs, par exemple, qui font du bovin ou qui font des grands CRLI, ça n'a rien à voir. Eux ils ont les subventions de la PAC, je sais pas combien ils touchent. Je crois que c'est pas mal quand même, c'est variable, mais je sais qu'en bovin, sans la subvention, ils ne peuvent pas vivre, certains. Moi, là, j'ai besoin de subventions pour le début. Logiquement, dans 3 ans, je vis sans subvention.
Donc c'est des aides à l'installation.
Aides à l'installation, oui. Moi, j'ai pas la DGA parce que j'ai plus de 40 ans. Moi, j'ai des aides, l'aide aux non-aidés, ça s'appelle. Mais c'est moins que la DGA. Moitié moins. Donc moi je vis avec ces aides que je n'ai pas encore touchées. un emprunt bancaire et puis j'ai encore des droits ARE, ACEDIC anciennement, maintenant ARE. Et ces droits-là, je les injecte dans l'entreprise. Donc c'est ce que je gagne par mois, quoi. C'est mes ACEDIC, heureusement.
Mais du coup,
il n'y a rien.
Ouais, c'est la coopérative qui. Parce que votre sel, tout part à la coopérative.
Ouais.
Et c'est en fond, eux, ils payent en fonction de la quantité que.
Non, c'est pas comme ça.
C'est pas ça.
Il y a deux systèmes. Soit on est apporteur à la coopérative et c'est ça. Je ramène 10 tonnes, on paye 10 tonnes. Soit on est coopérateur. Et c'est ce que je suis. Donc moi, mon sel est stocké à la coopérative. Et je suis payé, je serai payé. Enfin, j'aurai des acomptes mensuels quand mon stock sera conséquent. Parce que là, j'ai zéro en stock. Je viens de m'installer. Donc, j'ai rien en stock. Donc, j'ai rien. J'ai zéro acompte. Donc là, je vais rentrer du sel à la fin de la saison. J'espère que je vais faire une bonne saison. Et donc, à partir de ce moment-là, je toucherai des acomptes. Mais la coopérative a 3 ans d'avance de stock. Donc ça serait injuste qu'elle vende tout mon sel à moi, alors qu'il y en a d'autres qui ont déjà du sel en stock, il faut d'abord écouler le leur. Donc ils me donnent en clair une petite avance sur le stock que j'ai en cours, ils me vendent une toute petite partie, et ils en gardent une, jusqu'à ce qu'au bout de 3 ans j'ai un stock conséquent, et au fur et à mesure les acomptes vont augmenter. Et normalement dans 4 ans, j'aurai des acomptes suffisants pour vivre, quoi.
Mais c'est pas apparenté à un salaire.
C'est pas un salaire. Alors que pourtant, le mot salaire vient de sel. Salarium, du latin. Bon. C'est pas un salaire, c'est un acompte. C'est tous les mois, c'est des acomptes, c'est sur les ventes. Elle va vendre en moyenne 11 à 10 000 tonnes. 10 000 tonnes ou 11 000 tonnes de sel, tout confondu, gros sel, fleur de sel, par an. Et ils ont 30 000 tonnes, 36 000 tonnes de stock. Tu vois. Donc, et il y a 200 paludiers. Donc il faut trouver un calcul... que tout ça soit équilibré, quoi.
Voilà. Donc la coopérative, elle vend à qui?
Elle vend à les grandes et les moyennes surfaces, je crois que ça doit être 50-60%. Et le reste, c'est l'étranger, 12%. Et puis après, ça va être toutes les... Ça le vend dans le monde entier, hein, pratiquement. Il y a un gros marché... Le partenaire européen le plus gros, c'est l'Allemagne, je crois. L'Allemagne. Et après, ça vend partout. Puis après, c'est les restaurants, tout le monde qui veut vendre du sel, quoi. Mais là, c'est vrai que sans les grandes et moyennes surfaces, 60%, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Si on perd un client, on est quand même dépendant de ça, quoi. Et le but, c'est d'essayer d'être le moins indépendant possible, mais. Dépendant possible. Mais voilà, il y a 200 paludiers qui veulent vivre de leur métier. Il y a une petite réalité à laquelle il faut, même si on arrive ici avec des belles velléités de liberté, j'ai pas envie de dire libertaire, mais de liberté, quoi. Et ben, si on veut vivre de son métier avec la coopérative, vive bien, quoi. Enfin, on n'est pas riche, hein. C'est pas des gros acomptes, hein. Des acomptes normaux, parce que par rapport au travail qui a été effectué, parce qu'après la retraite agricole, c'est 600-700 euros, je crois. Donc, si on gagne peut-être 2000 euros par mois, on met de côté, hein, pour la retraite, quoi. C'est rien. Enfin, puis il faut payer les salariés. Moi, je trouve ça normal. Hein. Faut payer les impôts, les salariés, pas de soucis. Au contraire, mais c'est vrai qu'à la fin, il reste peut-être 2000 euros, quoi. En période de croisière. Ce qui est un travail, parce que l'été, je sais pas combien d'heures je travaille, moi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir un discours de vieillot, mais c'est une réalité, quoi. Ou alors on travaille moins. On fait 20 œillets. Une demi-SMI. On n'est pas patron, on ne paye pas les cotisations. Parce que moi, là, du coup, j'ai plus qu'une demi-SMI. Là. C'est 22 œillets, une demi-SMI. 53, donc du coup, je suis chef exploitant agricole, donc je paye toutes les cotisations. Mais c'est ma volonté, quoi.
SMI, pour rappel, c'est la surface minimale d'installation.
Oui, c'est ça, ouais. Et c'est aussi, au bout d'un... Il faut en avoir un certain nombre pour être chef exploitant. Pour avoir... pour tout, être à la MSA et tout, avoir tous les droits.
Ouverture sociale.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un choix. Mais je ne me dis pas que plus tard, j'aurai moins d'œillets, hein, peut-être. Hein. Mais pour un début, faut envoyer un peu, ouais.
Vous venez d'entendre Jean-Christophe, paludier dans le Marais Salant de Guérande. Cette émission a été réalisée grâce à la complicité de Mélo. Histoire de terre est diffusée un mercredi sur deux à 19h et toujours un samedi sur deux à 11h. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les archives sur notre site radiovassivière.com.